Une organisation internationale catholique, c'est le statut donné par le Saint-Siège à Pax Romana, cette fédération d'intellectuels et de professionnels qui a été fondée en 1921 et établie en 1947. À l'origine, Pax Romana rassemblait des étudiants discutant des spécificités de la vie chrétienne dans leur champ d'études, l'ancêtre, si l'on veut, des actuelles aumôneries d'étudiants. Les étudiants ont grandi, le groupe a suivi. Aujourd'hui, Pax Romana est implanté dans 80 pays, dont la France, représentée depuis l'an 2000 par le mouvement chrétien des cadres. Pax Romana, c'est maintenant deux branches, étudiants et professionnels. Mais une chose est sûre, Pax Romana tient son souffle de cette jeunesse chrétienne, désireuse de vivre des valeurs de l'Évangile, y compris dans sa vie professionnelle. Laissons la parole au père Antoine Zandag, assistant ecclésiastique international ou aumônier de Pax Romana. Il décrypte pour nous les fondements de la fédération.
Vous voyez, le mouvement dans chaque pays porte des noms divers. En France, vous ne rencontrerez quasiment pas, sauf dans des livres d'histoire, le mot Pax Romana, que beaucoup de Français risquent d'ailleurs de confondre avec Pax Christi. Je précise que ce sont deux mouvements sympathiques tous les deux, mais différents. Donc les Français trouveront le mouvement MCC. Ce qui est connu, c'est en Pologne, par exemple, les KIK, les clubs de l'intelligentsia catholique. Mais l'intuition est la même, c'est de regrouper des gens qui sortent de l'université pour qu'ils vivent la foi chrétienne dans leurs responsabilités, pas seulement dans leur vie personnelle, ce qui est très important, dans leur vie familiale, ce qui est très important, mais aussi dans leur vie professionnelle. Donc dans les sciences, dans l'économie et dans la vie sociale et la vie politique. Pour utiliser des termes de Paul VI, qui d'ailleurs était aumônier de Pax Romana en Italie avant d'être évêque et pape, eh bien on dirait qu'il s'agit à la fois d'évangéliser la culture et d'inculturer l'évangile. Donc moi je dirais volontiers que c'est un mouvement qui est à la croisée de la foi et de la culture, ou bien un mouvement d'évangélisation de la culture.
Les membres du MCC s'apportent d'abord un appui mutuel, mais ils puisent aussi de leur rencontre un enseignement, père Antoine Zandag.
Le mouvement leur permet aussi de se familiariser, de se former à l'enseignement social de l'Église, parce que l'enseignement social de l'Église est extrêmement utile pour permettre aux chrétiens de prendre la mesure de leurs responsabilités. Nos membres africains sont très sensibles à la thématique de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, et nous rappellent constamment que les intellectuels, les professionnels ne doivent pas échapper à l'une de ces actualités fondamentales dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi pour leur permettre dans des situations difficiles, vous savez, dans l'économie ou dans la vie politique, où vous avez souvent des questions de conflit de devoirs, de discernement, de voir qu'est-ce qu'il faut faire quand on est chrétien. Il n'y a pas une seule réponse simple. Et puis aussi dans des questions qui sont souvent alors encore beaucoup plus difficiles, qui touchent à la corruption, à l'influence, à l'usage immodéré du pouvoir dans la vie politique, ou bien au trafic des armes, ou au trafic d'influence. Eh bien, ça leur permet d'y voir clair à ces bons chrétiens, et ça devrait leur permettre d'exercer leurs responsabilités, oui.
La parole maintenant à l'actuel coordinateur européen de Pax Romana, Philippe Ledouble, qui a dirigé le MCC lorsqu'il était encore cadre à la SNCF. Il nous explique ce qu'apporte le fait de faire partie du MCC.
Le principe du MCC, c'est se dire, quand je suis amené à prendre des décisions professionnelles, c'est intéressant d'avoir d'autres regards, et en particulier deux regards. Le regard d'un autre membre dans une équipe avec qui on a une certaine liberté de parler, et puis je dirais le regard de Dieu, si on peut le dire comme ça, par le partage de l'évangile. C'est-à-dire essayer d'arriver à un certain déplacement de son point de vue. Ce qui est significatif, c'est plutôt dans les périodes d'épreuve, un moment où les choses ne vont pas comme on a envie qu'elles aillent, et que du coup on peut être quelquefois déstabilisé. Et donc je peux dire, moi personnellement, j'ai eu deux échecs professionnels, on peut dire, et je peux dire que, un peu grâce à ça, ce qui pouvait paraître humainement un échec a été une période de développement spirituel. Et je vois par exemple pour mon frère qui a été licencié, et à un moment de son entreprise, le MCC a été certainement le lieu où il pouvait parler librement de ça, et donc d'être accompagné dans une situation professionnelle qui était très difficile, quoi.
Il y a une autre expérience, la relation avec les collègues, une manière chrétienne de l'aborder.
Je dirais d'abord, c'est bien sûr le fait de considérer l'autre d'abord comme un être humain. On a toujours tendance à considérer l'autre, bon, étant un être humain, mais d'abord étant son patron, ou d'abord son subordonné, en le considérant comme étant d'abord un homme ou une femme, ou plein de classifications. Le chemin qu'on fait et qui ne se fait pas au cours d'une réunion, mais je dirais au cours des années, c'est de dire que, quelle que soit la situation, homme, femme, blanc, noir, petit, grand, etc., c'est d'abord un être humain. Et puis après, il y a aussi une chose importante, c'est de prendre conscience qu'on n'agit pas tout seul et que le problème que l'on est confronté, il est plus large que ce qu'on croit et que ça vaut le coup d'y réfléchir ensemble, éventuellement d'agir ensemble pour faire évoluer les choses. On n'est pas dans une démarche solitaire.
Mais il n'existe pas de modèle unique à Pax Romana. Si les Français aiment à se retrouver en fraternité une à deux fois par mois, les habitudes peuvent être différentes ailleurs, Père Antoine Zandag.
Il y a d'autres endroits ou d'autres pays où le mouvement est plutôt un mouvement d'intellectuels. On se réunit pour faire des congrès, des conférences, aborder des sujets difficiles. Donc là, il y a une présence publique du mouvement par des prises de position, par des réflexions, par des publications, la publication de revues également.
Et les membres du mouvement Pax Romana se retrouvent de temps en temps au niveau international pour partager de leurs expériences ?
Au niveau international, il y a une première organisation au niveau de chaque continent. Nous avons un Pax Romana Europe, un Pax Romana Afrique, un Pax Romana Amérique latine et Caraïbes qui actuellement sont très mobilisés pour suivre les travaux du CELAM. À Aparecida, au Brésil. Au niveau de Pax Romana Europe, il y a eu une réunion, un colloque, il n'y a pas très longtemps, à Venise, autour de la question de la candidature de la Turquie à participer à l'Union européenne. Et au plan international, nous avons des colloques ou des sessions d'études qui ont lieu régulièrement. Donc actuellement, nous sommes à Rome pour étudier un peu le Saint-Siège, un autre visage de la globalisation. Nous-mêmes, c'est-à-dire Pax Romana, nous sommes une association internationale qui dispose d'un statut consultatif auprès des Nations Unies. Et donc, à ce titre, nous participons comme observateurs au Conseil des droits de l'homme, qui siège régulièrement à Genève. Et pendant le temps qui est imparti pour les ONG, eh bien nous-mêmes, nous prenons la parole comme mouvement catholique de défense des droits de l'homme. Nous avons d'ailleurs de bons contacts avec d'autres ONG enracinées dans d'autres foi, que ce soit maintenant des ONG ou protestantes, ou des ONG juives, ou des ONG musulmanes. Oui.
Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter à l'Église telle qu'elle est aujourd'hui ?
Apporter à l'Église, cette expression me plaît qu'à moitié, parce que nous sommes un morceau de l'Église, alors nous sommes un petit morceau qui apportons quelque chose à l'ensemble, si on peut dire. Je crois que la plupart des chrétiens sont légitimement convaincus qu'être chrétien, ça touche votre vie personnelle, ou votre vie intérieure. C'est la prière. Mais en même temps, il faut percevoir que le feu de l'Évangile, que la révolution chrétienne, c'est beaucoup plus large que la vie intérieure, la vie spirituelle ou la vie familiale, que c'est le monde entier qui est renouvelé. Et le monde entier, ça veut dire la vie économique globale, la vie financière, la vie internationale, les rapports de force entre les grandes puissances, y compris les rapports de force militaires. Alors, ne me demandez pas trop vite comment on va faire ça. Mais la première étape, c'est de percevoir que être chrétien dans le monde, c'est vraiment apporter la nouveauté de l'Évangile dans toutes les dimensions.